Les haut-parleurs, l'émission qui parle fort.
Dans notre ville,
de la rencontre,
de l'écoute,
de la découverte,
de l'échange,
de la diversité,
de l'humour,
de la simplicité,
de la bonne humeur,
de la curiosité.
Passez un bon moment.
Et nous revoilà, chers auditeurs, chères auditrices, dans les studios de notre cher Radio Moulin, dans l'émission Les Haut-Parleurs. Et nous avons ici présent dans notre studio Marouane. Bonjour Marouane.
Bonjour Ahmed.
Nous avons aussi également Laudine.
Bonjour Ahmed, bonjour Marouane.
Et nous avons à la technique Maëlle.
Bonjour à tous et bonjour à toutes.
Bien, et nous n'oublions pas que nous avons aussi Brian, en direct d'une ville qui est située près de Montpellier, à Saint-Martin-de-Vignaugould, ici même présent téléphoniquement, comme quoi la technique, même si on est loin.
Salutations à tous.
Bonjour Brian. Comment allez-vous, Brian ?
Ça va, ça va. On en reviendra vers quand ce sera mon créneau, mais je suis très fatigué.
Bon, alors ici, je tiens à vous dire que c'est l'automne, le ciel est gris, bas et humide. Et une température...
Parce qu'ici, il est sec et il y a du soleil.
Très bien. Et vous avez le ciel bleu, je présume.
Avec des nuages, mais ouais, plutôt bleu, ouais.
D'accord. Alors, on est très heureux de vous avoir présent dans les studios. Vous nous envoyez un peu de soleil, un peu de lumière, parce que ça va nous manquer.
Parce qu'il pleut un petit peu dans le coin ici, je vous envoie le soleil dès la fin de l'émission.
Merci, Brian. Au sommaire aujourd'hui, Laudine.
Au sommaire aujourd'hui, nous allons aborder tout ce qui nous tient à cœur, à savoir nos passions.
Et notamment, une chronique footballistique, ça se dit footballistique ?
Ouais.
Footballistique. De Marouane.
Marouane qui va répondre à tes questions, Ahmed.
Nos questions.
À nos questions.
Parce que Brian aussi est là, donc Brian...
C'est pas vrai.
Eh oui. Brian aussi pourra nous poser des questions.
Eh oui.
Et nous avons aussi quelques morceaux de musique qui vont du swing au...
Au rock'n'roll, en passant par la musique classique. Peut-être que Brian, d'ailleurs, pourrait nous éclairer sur le terme adéquat pour qualifier la musique dont je voudrais faire la présentation. On va écouter la bande originale du film Le Château Ambulant de Joe Hisaishi. Et pour toi, Brian, danser la passion, c'est une chose Ghibli.
Alors, logiquement, le style devrait aller dans du classique.
Classique.
Sauf qu'il existe dans le monde de la musique des genres musicaux un genre spécifique qui englobe beaucoup de choses. Ça s'appelle musique de film. Il n'y a rien de plus évident. Donc voilà, le thème du château ambulant de Hisaishi, tu le classes dans musique de film classique.
Avec une sorte de valse quand même, hein. Là, on pourra l'occasion de l'écouter.
Le tempo ternaire.
Le tempo, il est tempo valse. Donc, on pourra danser une petite valse tout à l'heure.
C'est Ahmed a envie de danser aujourd'hui.
Oui.
Il était au swing dans les studios. Maintenant, il veut nous inviter à valser. Apparemment, le vent lui va.
C'est ça, le vent du nord. Avec un petit rayon de soleil du sud de Montpellier. Et nous avons aussi, dans notre chronique, dans notre émission, pardon, nous avons... une sorte de présentation, de réflexion, de remarque sur le luxe, puisque...
Une réflexion sur le luxe, oui, Ahmed, tu proposes ta réflexion sur le luxe.
Alors, je vais proposer parce que je suis tombé sur un documentaire qui m'a interpellé, notamment sur les grands couturiers, et ça m'a aussi fait remonter quelques souvenirs, notamment celle de la maison de couture d'Yves Saint-Laurent. Et notamment sa maison de naissance que j'ai pu visiter dans la ville d'Oran, puisqu'il est né à Oran. Yves Saint Laurent. Voilà, donc ça, avec des associations d'idées, on va pouvoir présenter juste quelques réflexions sur l'industrie du luxe.
Et ton voyage à Oran.
Et absolument. Alors, pour commencer, moi, je vous propose, puisque vous allez pouvoir proposer aussi, vous, quelques morceaux de musique, moi, je vous propose comme musique d'entrée, puisqu'on parlait de danse, c'est du swing, c'est les Brown and Orchestra, c'est Busy As Is Day.
On écoute ça? On veut écouter Brown Orchestra, Busy As Is Day, please.
Ça vient, ça vient. Voilà.
Notre technicien nous fait un Brown Day, nous fait un Bloody Black Day, nous fait un Blackout. Eh bien, écoutons.
Eh bien, messieurs, dames, la musique est lancée, mais on ne l'entend pas.
Ah. Écoutez, elle arrive, elle arrive.
Brian.
Ah, et bon. Ben voilà, c'est très bon. Alors, on danse. Et eh bien voilà, c'était les Brown Orchestra. Vous n'avez peut-être pas pu profiter de ce swing, Brian. Et croyez-moi que ça swingait dans le studio.
Oh, mais moi j'ai le nom sur le conducteur de l'émission, donc j'irai écouter ça juste après l'émission.
Voilà. Alors, pour continuer un peu dans le même fil, nous allons, avec Marouane et nous tous et toutes... partir sur le football qui est quand même le sport national, voire mondial, hein, puisque il me semble que c'est un des sports qui rapporte le plus d'argent dans le monde, non, Marouane?
Oui, carrément.
Ouais, après, il y a à peu près la NBA et le football américain aussi qui sont bien dotés.
Exact. Parce qu'en discussion comme ça, hors micro, on parlait de football. Et on parlait notamment de les événements qui auront lieu nationalement, européennement ou mondialement. Alors, c'est quoi le programme du football actuellement dans cet espace-temps?
Alors, il y a tout nouveau, c'est que la Ligue des Champions, elle a changé de format. Donc, ce qu'on parle plus, c'est de la Ligue des Champions.
Alors, la Ligue des Champions, pour les non-initiés, c'est quoi ?
C'est une Coupe d'Europe des clubs champions. Les premiers, les trois premiers, ou voire quatre premiers de chaque championnat sont qualifiés pour participer à une compétition européenne.
D'accord. Alors, j'ai une question qui me vient comme ça en tête. C'est essentiellement masculin. Pourquoi on n'a pas de Ligue des champions féminins ?
Si, ça existe. Ah, ouais.
Ça existe.
Ça existe il y a depuis peu, oui.
Pas très longtemps. Plus,
Alors, dites, alors, je suis très curieux.
En ce moment, c'est Lyon qui est assez fort en Ligue des champions.
Féminin.
Féminin, ouais.
D'accord.
Et ils sont un petit peu en train de régresser par rapport au début, mais c'est eux qui ont le plus de coupe de Champions League féminin.
Pourquoi ? C'est parce que la France, c'est la France qui a initié un peu ce mouvement ?
Ça, je ne saurais pas dire qui a initié vraiment ce phénomène, mais je sais que la France, elle a fait partie des premières.
Ouais. Eh bien, écoutez, c'est une bonne nouvelle, je pense, pour le football et français et international. L'âge de la retraite, parce qu'on parlait beaucoup de retraite, même à tous les niveaux, c'est quoi l'âge de la retraite d'un footballeur aujourd'hui ? Approximativement.
En moyenne, c'est 33, 34 ans, maximum 35. Mais il y a des exceptions. Il y en a qui partent beaucoup plus tôt, à 31 ans, par exemple, pour Varane, Raphaël Varane, joueur de l'équipe de France, défenseur. Et pour certains, comme Cristiano Ronaldo, la mégastar, lui, il est encore en train de jouer et il a plus de 40 ans. Quoi.
Ah oui, il joue encore ?
Oui, il joue encore.
Et
39, 40 ans. Voilà.
Et il joue où, Ronaldo ?
Et là, en ce moment, il joue en Arabie Saoudite.
Ah, il y a ce qu'il faut, là. Il doit être dans un palace en Arabie
Saoudite. Ah ouais, là, il y a un pont d'or là, pour aller là-bas. C'est une retraite dorée qui est en train de se faire.
Donc c'est Cristiano Ronaldo. Hein.
Oui.
Il est de quelle origine, Cristiano
Ronaldo? Portugaise.
Brésilien, je crois.
Brésilien ou portugaise? Enfin, c'est peut-être les deux. Hein,
Portugais. Il y a Ronaldo, le R9, là, c'est brésilien, qui date d'il y a beaucoup plus longtemps. Là, ça fait longtemps qu'il a la retraite. Et il y a Cristiano Ronaldo, là, c'est le portugais. Et il joue encore.
Oui, parce qu'on a tendance à confondre les deux.
Ouais, enfin, il ne faut vraiment pas regarder les images pour confondre les deux, parce qu'il n'y a pas photo.
Non, ils ne se ressemblent pas du tout. Mais ils ont le même nom, quoi, de famille.
J'avoue que moi, je les confonds tout le temps.
Vous regardez le football de temps en temps,
Brian? Brian les confond tout le temps. Brian, non, tu confonds Cristiano Ronaldo et Ronaldo? Tu les confonds, tu dis tu les confonds tout le temps, tu parles de Cristiano Ronaldo et Ronaldo?
Oui, c'est ça. Ah, oui.
Ça vous arrive, Brian, ça vous arrive de regarder le football?
Alors, non, mais je me suis fait une amie ici à Saint-Martin-de-Vignogoul qui est une grande fan de foot. Donc, du coup, indirectement, je suis toujours un peu au courant de ce qui se passe.
D'accord, c'est bien parce qu'on parlait du football féminin, justement.
Oui, et que le football féminin, la France, on se débrouille comme des chefs, quoi.
Est-ce qu'il y a une star dans le football féminin qui se dégage un peu nationalement, européennement, mondialement?
C'est Wendy Renard.
Ok.
Une défenseur de Lyon qui joue en équipe de France aussi, qui est à peu près la plus grande star de l'équipe de France. Quoi.
Croyez-vous en ce moment. Oui, alors croyez-vous qu'un jour on pourra mixer les équipes hommes-femmes.
Avec le machisme de ce moment, ça va être dur.
Ça va être dur.
Ah ouais.
On pourrait, d'après vous?
Ouais, c'est possible. Hein. Déjà, au départ, les enfants, quand ils débutent, il n'y a pas de genre. Il n'y a pas de genre. C'est mixé. Ouais, et au fil de quand ça monte. Au niveau de...
Du niveau de compétence.
Voilà. Ou... Et ça commence à se séparer.
À se séparer.
Ouais.
D'accord.
Il y a une raison particulière à ça?
Je sais pas vraiment. C'est... Après, c'est une question de vestiaire aussi. C'est surtout ça qui fait que... on peut pas les mettre ensemble, quoi. À la fin du match, il y a le vestiaire. Il y a souvent des douches avec une grande salle.
Ah, ça se fait pas, ça.
Donc, c'est compliqué.
Ouais. Ouais, mais on pourrait aménager quand même. C'est, ouais. C'est que matériel.
Ouais, mais les moyens dans le foot amateur, ça n'a rien à voir avec le foot.
C'est vrai, quoi. C'est vrai. C'est pas les mêmes moyens.
C'est pas le même moyen.
Je disais aussi, quel est le meilleur joueur actuellement, vous estimez être le meilleur joueur actuellement en France, par exemple? En France.
En France.
D'après vous.
C'est compliqué parce que là, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était Mbappé. Mais Mbappé, il est parti en Espagne, au Real Madrid. Donc là, c'est à peu près égalité. Il y a Dembélé au Paris Saint-Germain. Il y a... Ben après, c'est tous les plus grands joueurs sont à peu près au Paris Saint-Germain. Donc, c'est... Il y a Rabiot aussi qui a signé à Marseille. Ça aussi, c'est un grand joueur. Et après...
On n'a pas de grands joueurs à Lille?
À Lille, il y a un Canadien, Jonathan David, qui est international canadien, qui est un bon joueur. Il y a Zegrova, mais lui, c'est Kosovo. C'est aussi un très bon joueur.
C'est pas mal.
C'est déjà pas mal.
Et mondialement?
Mondialement, c'est Messi. Messi, Léo Messi et Cristiano Ronaldo. Mais ça commence à changer tout doucement. Là, comme pour le Ballon d'Or, Messi et Ronaldo, c'est la première fois qu'ils n'ont pas été sélectionnés parmi les 30 meilleurs joueurs du monde. Donc, pour savoir qui va être le Ballon d'Or cette année, ça va être très très compliqué, ça sera très très serré. Donc,
vous avez une petite idée?
C'est dur de faire des pronostics.
Vous avez une petite idée? Vous, s'il fallait attribuer un Ballon d'Or?
Il y a Haaland, Mbappé.
Il y a déjà deux noms qui se dégagent quand même. Bon, peut-être que vous aurez un pari gagnant.
Ouais, mais après.
Oui, j'ai une petite question. On entend souvent parler du bras de fer PSG-OM.
Ouais.
C'est quelque chose qui est devenu légendaire, que les deux équipes peuvent pas se supporter et tout ça, que c'est un peu la guérilla. Tu penses que ça se calme dernièrement, justement, cette rivalité?
Il y a toujours le classico. C'est toujours faire partie des matchs les plus importants du championnat. Mais il y a vraiment... le PSG a pris une grande avance sur eux. Ça commence à se réduire, mais les moyens sont disproportionnés par rapport à Marseille et PSG. Et PSG, ils sont loin devant.
Au niveau des moyens.
Au niveau des moyens et au niveau joueurs aussi.
Oui, parce que ça va avec les moyens.
Ouais, ça suit. Ouais.
Donc on achète des joueurs.
Ouais.
C'est le Qatar qui finance?
Oui.
Je sais plus quel joueur est parti à 700 000 pour 700 000 euros. Je sais plus du tout, c'était un joueur français. Je crois que c'est peut-être Mbappé.
Là, Mbappé, il est parti gratuitement, il a fini son contrat. Au départ, il y a eu une proposition, il y a eu une offre du Real Madrid à 200 millions, mais il a refusé et le Paris Saint-Germain a refusé. Et là, ça fait qu'il a fini son contrat, il est parti libre. Mais il y a le contrat qui vient avec du joueur et ça, ils ont dû lui faire une offre de malade pour l'acquérir.
Les 200 millions, c'est pas pour le joueur, c'est pour le club.
C'est pour le club. Ouais. Mais là, il a refusé, donc ils n'ont rien eu à la fin. Et ils se sont mis d'accord. Et là, il y a eu un procès aussi entre Mbappé et le Paris Saint-Germain. Mbappé réclame 55 millions de salaire au PSG. Donc, c'est pas fini leur histoire. Et là, en fait, quand il y a le Paris Saint-Germain, le Qatar, ils ont retenu son salaire parce qu'il partait libre. Pour lui dire que c'est une compensation. Mais normalement, sur son contrat, il n'est pas stipulé ça. Ils sont en train de voir ça par la justice pour essayer de récupérer son argent Mbappé.
Mais 55 millions, pardon.
Vertigineux. Ouais.
C'est colossal.
Ouais, mais c'est rien pour Mbappé.
Mais qu'est-ce qu'il fait ?
Dans le foot, ça brasse énormément d'argent. Hein.
Ouais. Mais qu'est-ce qu'il peut faire avec ces 55 millions ? Ouais. C'est énorme.
Ils investissent quand même. Mbappé, il a acheté le club de Caen. Il a acheté un club pour s'amuser, je pense. Hein. C'est même pas... Enfin, pour les supporters de Caen, c'est bien, mais c'est un investissement.
C'est ça.
Essaye de faire du... Un peu moins comme je fais avec Football Manager, un jeu vidéo, bah, eux, ils font en vrai avec de la vraie argent.
Ouais, c'est du mécénat, en fait. Ils encouragent les clubs de France. Là, en l'occurrence, c'est un club de France. Donc c'est son choix. Enfin, ça peut être aussi une façon d'assurer l'avenir, son avenir à lui en tant que footballeur, d'avoir toujours un pied en France. Aussi, soit en tant qu'entraîneur, soit en tant qu'investisseur.
Ouais.
Je remarque quand même que ce sont souvent des investisseurs étrangers qui viennent sur nos clubs en France.
Ah, il y a...
Surtout du côté Moyen-Orient. Hein. C'est le Moyen-Orient qui rachète énormément de joueurs actuels.
Voilà. Sur les grands clubs. Les petits clubs, c'est plus des présidents français. Quoi.
Mais en grands clubs, on n'en a pas beaucoup en France.
Après, il y a un système où...
Pardon
où...
Ben, on n'en a pas beaucoup. On a Marseille, Paris...
Monaco.
On a
Lyon.
Il y en a beaucoup, Ahmed. Il y en a vraiment beaucoup.
Et après, il y a un système où on a un président, mais c'est pas lui qui a les moyens. C'est un fonds d'investissement. Et ça, c'est souvent là, comme Lille, c'est le Luxembourg qui aide financièrement le club. Et qui demande des comptes aussi.
Tiens, une question. Lille est bien placée actuellement sur.
Ils doivent être 5e, 4e, 5e, là en ce moment.
Ce qui est pas mal.
Toujours très bien.
C'est que le début de saison, là. Ils ont eu un début de saison mitigé quand même par rapport à ce qu'ils auraient pu faire mieux.
Très bien. Je pense. Alors, moi, juste peut-être une dernière question, où il y en aura peut-être d'autres encore dans le studio. Je reviens sur le ballon d'or. Qui décide du ballon d'or ?
C'est les journalistes de chaque pays. Chaque pays. En fait, quand ils prennent les 100 premiers clubs du classement UEFA, et chaque pays, le classement des pays. Et les 100 premiers pays, ils ont deux journalistes qui ont un droit de vote pour chaque pays. Et ils désignent les 30 premiers ballons d'or. Une liste de 30 premiers.
Et en parlant de ballon d'or, puisqu'il faut bien se mettre des chaussures, il y a la chaussure d'or, non ? Ça existe ?
Il y a le soulier d'or.
C'est le soulier d'or.
Meilleur buteur.
Alors, qui est le meilleur buteur, là, actuellement ?
Je crois que c'est Haaland. Haaland est loin devant, je pense. Ou Mbappé. Mbappé aussi doit pas être très loin.
Le soulier d'or. Alors, vous savez que actuellement, puisqu'on va parler du luxe, donc de la mode, qu'il y a des chaussures de football qui tout doucement arrivent dans la mode, dans les magasins. Mmh. Et c'est le modèle de la chaussure, qui est de chaussures de foot, qui est de plus en plus vendu dans les magasins.
Mmh.
Vous saviez ?
Oui, mais sans les crampons, j'imagine.
Sans les crampons, mais vous savez, c'est la mode après, c'est de la récupération. Vous le saviez, Marwan ?
C'est du marketing. Ouais.
C'est du marketing. Ouais. Oui.
Ils achètent très très cher. Ben, c'est un deuxième salaire pour le joueur, ça. C'est vraiment, même voire plus, des fois, ça dépasse le salaire que le joueur. Il y a des joueurs aussi qui ont un contrat à vie avec une marque et peuvent brasser des millions. Quoi. C'est phénoménal.
Qu'est-ce qui devient Zidane ?
Zidane, il cherche un club. Non, il cherche pas un club, vraiment. Il cherche pas vraiment un club. En fait, contre lui, il y a ce qu'il attend exactement, c'est l'équipe de France. Il attend que Deschamps soit viré, exactement. Il a refusé plein de propositions, le Bayern, de grands clubs, quoi. Et Manchester United, ils l'ont aussi demandé de venir. Marseille, je pense que oui, mais ils n'ont pas les moyens de se le payer, je pense. Ils ont fait... Et il les a tous refusés. Donc lui, ce qu'il attend exactement, c'est d'avoir l'équipe de France. Il a tout gagné aussi, lui, avec le Real de Madrid. Il a gagné la Ligue des Champions plusieurs fois. Et il a même fait un triplé, c'était d'affilée. C'est pas... Aucun entraîneur l'a fait, quoi.
Très bien. Et écoutez, c'était... Vous avez... Très intéressant. Vous avez beaucoup de connaissances en football. Merci pour toutes ces informations, et la fois prochaine, ben, vous nous tiendrez informés des compétitions, de là où on en est par rapport à la Ligue et aussi des championnats de France.
D'accord.
Merci Marwan. Une musique
Une chanson, un air de Cachemire avec Led Zeppelin.
Led Zeppelin.
I'm a traveler.
Et voilà, de retour dans notre studio après Led Zepp, comme on dit hein, chez les anciens.
Ouais, ouais, les anciens vous saluent bien, bah, Led Zepp ouais. Et leur cachemire ambulant.
Voilà, alors Brian, c'est l'occasion de justement de revenir à vous sur votre production que vous êtes en train de mener au sein de votre petite commune de Saint-Martin de Vignogoule, où vous êtes en train de réaliser, il paraît, un film. Vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Ouais, alors bon, à cette émission, on est habitué à m'entendre parler cinéma régulièrement. Mais jusque-là, je parlais cinéma en tant que spectateur. Sauf que dernièrement, moi, je suis passé de l'autre côté. Je suis passé au tournage. En fait, on a été approché par un réalisateur qui s'appelle Lilian Batelot, qui est écrivain né dans l'Aveyron. Et qui voulait réaliser un docu-fiction sur la clinique Saint-Martin-Vignogoule, où je loge en ce moment. Et donc, en fait, on a commencé à travailler là-dessus au mois d'avril. On a commencé à écrire tous ensemble le scénario. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup avancé. Et là, la semaine dernière, du lundi jusqu'au vendredi, on a fait le tournage.
Très bien. Le thème de ce, oui. Le thème de ce film, c'est un film documentaire, c'est un film d'action.
Ça mêle de la fiction avec du documentaire, effectivement. On a réfléchi à plusieurs scènes qui peuvent présenter certains aspects de la clinique. Et en général, on les a présentées avec un contrepoint un peu humoristique, un peu comique. On a beaucoup de contenu comme ça. Bon, on a aussi du contenu un peu plus sérieux qui nous rappelle que Saint-Martin, c'est pas juste un lieu de vie où on s'éclate, mais que c'est aussi un lieu où certaines personnes peuvent être en souffrance. Du coup, c'est un docu-fiction. Donc, il y a toute une partie fiction qu'on a déjà tournée, et une partie documentaire via des témoignages qu'on est allé chercher auprès de différents patients, mais pas seulement, des soignants, l'équipe de ménage, tout ça. On a contacté un petit peu tout le monde. Donc voilà, pendant toute la semaine dernière, on est enfin passé au tournage avec donc ce monsieur, Lilian Batelot. Et c'était très 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 intéressant. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en tout début d'émission, c'était éreintant au niveau charge mentale. C'est vraiment, ça demande beaucoup de ténacité, beaucoup d'énergie.
Ouais, et... comment vous avez pu trouver cette énergie alors ?
Bah, en fait, quand on est dans le truc, on la sent pas, la fatigue. C'est dès qu'on a la caméra qui se pose et on dit couper, là par contre la fatigue elle tombe. Et moi j'ai pas pris non plus le poste le plus facile, parce que moi j'ai pris le poste du making of. D'accord. Donc moi je pouvais pas dire tiens cet après-midi il n'y a pas de scène où je joue, je vais aller me reposer. Non, je devais être là H24 sur toutes les scènes et toutes les séquences pour capturer un maximum de moments de ce tournage. Et je m'en occupais tout seul. Donc en fait, j'ai fait un taf de réalisateur à moi tout seul. Et voilà, c'était ça qui était très fatigant. Tant que j'étais avec ma caméra, j'ai utilisé mon téléphone. Tant que j'avais mon téléphone, ça allait, je sentais pas. Mais le soir, dès qu'on posait la caméra une bonne fois pour toutes, qu'on avait fini pour la journée... on avait un énorme raz-de-marée de fatigue.
Vous disiez que vous utilisez votre téléphone en plus de la caméra ?
Oui, en fait, donc il y a Lilian Batelot, le réalisateur, qui filmait les scènes avec du coup son matos, donc une vraie caméra bien pro et tout, avec le son. Pour ce qui était du making-of, comme moi je capture les coulisses, je capture ce qui se passe entre les scènes, les conseils qu'ils donnent aux acteurs, ou même quand est-ce qu'on recherche à quel endroit on va tourner, ben du coup, c'était avec le téléphone du coup, mais ça fait l'affaire hein, pour un making-of. Donc on avait trois caméras, il y avait une grosse caméra, une petite caméra, et moi avec mon téléphone qui me baladait un peu partout.
Et le contenu de ce doc, c'est combien d'heures de travail, de rush ?
Alors là, pour ce qui est de Lilian, qui a fait le film lui-même, je crois qu'il a 2h30 de rush, dans lequel il va devoir tailler, parce qu'on vise à faire un court-métrage à la base, donc on va faire 15-20 minutes, donc il a quand même facile 2h30 à couper et à corriger. Et moi, j'ai encore plus de temps que ça. Moi, je pense que je suis autour de 3h15 de rush. Parce que je saisis les mêmes images que lui. Mais en plus de ça, je saisis ce qui se passe hors du tournage. Donc, j'ai beaucoup plus de travail, beaucoup plus de matière au final.
Vous avez un peu votre trame ? Vous avez l'idée ?
Oui, en fait, on voulait beaucoup présenter Saint-Martin et déstigmatiser ce qu'on pense de la psychiatrie, tout ça. On a commencé en fait avec une scène avec un drone. On a eu droit à un drone qui a pu survoler Saint-Martin, qui sera en introduction. Et ensuite, on a présenté différents organismes. On a présenté le centre de jour, on a présenté le self, on a présenté le travail des ESH, donc qui sont les agents d'entretien. Et le fil rouge, c'était le groupe de parole, parce qu'à Saint-Martin, on a un groupe de parole obligatoire de 9 à 10. C'est devenu la scène centrale. Donc on part du groupe de parole, quelqu'un dit quelque chose, on saute sur ce qu'il dit sur une autre scène, puis on revient au groupe de parole et on fait comme ça régulièrement.
C'est une expérience que vous avez déjà menée ou c'est tout nouveau pour vous ?
Non, c'est le tout premier tournage sur lequel je participe et auquel je suis. Au final, moi, je me suis pris au jeu très vite parce que j'ai aussi été figurant, j'ai aussi joué un petit rôle. J'ai joué le rôle du professeur de l'activité de philo. Donc, j'étais au making-of et tout. Et là, c'était ma première vraie expérience de tournage. Et elle s'est magnifiquement bien passée. Et là, j'ai hâte de m'y remettre. Je suis en contact avec une jeune fille, Anna Bogdanovic, qui est un petit peu plus jeune que moi, qui est déjà sur ses premiers courts-métrages. Et là, elle aimerait avoir ma participation sur son premier long-métrage qu'elle est en train de mettre en place en ce moment. C'est une vocation qui se réalise, parce que voilà, moi je suis un passionné de cinéma, je pense que ceux qui écoutent l'émission le savent maintenant. Et là, le fait d'être passé du côté technique, après avoir été seulement spectateur, c'était incroyablement stimulant, même si c'était très fatigant.
Et sinon, Brian, vous avez eu apparemment beaucoup de moyens. Combien à peu près ça tu sais combien ça a coûté, tout ça ?
Ouais, je sais combien ça a coûté. On en a parlé ce matin même lors d'une permanence, parce qu'on a des petites réunions qui s'appellent les permanences. Et finalement, ça nous a pas coûté si cher que ça. On en a pour 426€ pour 5 jours de tournage. Et le principal qui nous a coûté le plus cher, qui nous a coûté 200€, c'était l'utilisation du drone.
Ah d'accord.
Après, voilà, ça a été cofinancé entre la clinique, une association qui s'appelle Culture et Sport Solidaire, qui propose à la clinique des sorties culturelles et sportives pour les patients, avec une faible contribution financière. Et donc c'est eux qui nous ont financé.
Mais alors le réalisateur doit se payer aussi
Nous l'a fait sentir plusieurs fois pendant le tournage que lui, il n'a pas été beaucoup payé pour le tournage. Il a été payé autour de 150-200€, alors qu'il est investi sur le tournage depuis pas mal de temps. Là, il a encore le montage à faire de son côté. Donc là, on est en train de voir avec la clinique si on ne peut pas lui verser un salaire un petit peu plus conséquent.
Très bien. Donc c'est un documentaire qui ne va pas coûter cher.
Non, il n'a pas coûté cher en vrai. On s'attendait à ce que le budget explose beaucoup plus fort. Mais finalement, voilà, lui, il avait tout le matos aussi qu'il fallait. Donc, on n'a pas eu à acheter de matériel. Mais ouais, voilà, ça a été plus. Ça a pris plus de temps que d'argent au final.
Et est-ce que cette expérience, qu'est-ce que vous en tirez?
Bah déjà, elle m'a fait réaliser les liens que j'ai tissés à Saint-Martin-de-Vignaugoul, puisqu'on a été un groupe, un noyau dur pendant plusieurs mois pour écrire le film. Et là, à la réalisation, on s'est rendu compte qu'on avait une très bonne ambiance. Et moi, ce que j'en retiens, c'est que moi, j'ai envie de m'y remettre. J'ai trouvé ça génial. Ouais. Tu lis des liens avec des gens et c'est des liens que tu n'aurais pas pu former autrement, en fait.
Est-ce que ce documentaire pourrait être visible sur des plateformes ou ailleurs?
Bah, pour l'instant, c'est pas trop sur la diffusion ce qu'on va faire. Ce qu'on sait, c'est que la clinique, elle a une petite chaîne YouTube sur laquelle il y a déjà deux ou trois projets qui ont été postés. Et ensuite, on a la clinique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'un des psychiatres qui a participé à l'écriture du film a eu pour idée d'utiliser le film pour promouvoir Saint-Martin-de-Vignaugoul auprès d'éventuels nouveaux patients, pour montrer voilà la réalité de Saint-Martin, tout ça, et informer, en fait. Et après, voilà, peut-être sur YouTube. Et si la plupart des gens qui ont participé au film sont partants, il y a moyen que le film puisse passer dans des petits festivals de courts-métrages locaux. Et après, bah, si ça a un petit peu de succès, ça pourrait aller dans des festivals un petit peu plus larges, peut-être au niveau national, quelque chose comme ça.
Oui, Laudine ?
Moi, j'attends l'ours de Berlin.
Bah, là, il y a encore du travail. Je pense que Lilian Batelot, le réalisateur, il nous a dit qu'il en a jusqu'à mi-novembre pour finir le montage. Donc, ouais. Et moi, de mon côté, j'ai beaucoup de travail aussi parce que j'ai aussi du montage à faire.
Mais... Ouais, c'est le principe du making-of, c'est de la post-prod, et puis l'application de la confidentialité aussi, ça va être pas mal de travail en aval du tournage. S'il y a des personnes qui défendent leur droit à l'image, si vous souhaitez diffuser ça pour promouvoir la clinique...
Là, on est en train on est dans une petite initiative de faire signer à tous ceux qui ont figuré dans le film leur attestation de droit à l'image. On y a fait très attention. Et pour l'instant, tout le monde a signé son droit à l'image. Donc, a priori, si ça doit circuler, si le film doit circuler, il circulera. Et ouais, le making-of, c'est presque aussi chronophage que le film lui-même. Et j'ai dû le gérer tout seul, quoi.
Oh là là, la charge sur tes épaules. Qu'est-ce que tu dois bien dormir après des journées comme ça?
Ah ben là, j'ai pas encore eu le temps parce que ce week-end, j'ai été en permission pour mon anniversaire, donc j'ai pas eu de temps pour me reposer. Et là, cette semaine, je travaille pas sur le film, je vais me reposer parce que voilà, c'est génial, c'est vraiment très inspirant.
Donc, très bien. Très bien, Brian. En tout cas, on souhaite beaucoup de succès à votre documentaire et aussi, vous savez que 2025, c'est notre Premier ministre qui nous l'a annoncé. Serait l'année de la santé mentale. Donc peut-être.
Oui, j'ai entendu ça, effectivement.
Voilà. Donc peut-être qu'on le souhaite, hein, bien sûr, que votre documentaire puisse être visible pour cette année à venir.
C'est quelque chose dont je peux parler au réalisateur Lilian Batelot directement d'ici quelques jours ou
voilà.
Une semaine ou deux.
Et il y a aussi les semaines d'information santé mentale. Très bien, merci Brian. Alors, on va, pour cette occasion, il y a une musique, on a pensé à vous.
Oui, c'est le grand amateur des studios Ghibli, qui est notre ami Brian, et qui a su nous qualifier ce qui était une musique de film classique, comme
ouais,
celle
du
Château
classique.
Ambulant.
Dernièrement, je suis en train de me refaire tous les Ghibli, donc c'est assez rigolo niveau timing.
Voilà, alors on lance la musique.
C'est parti.
revoilà parmi vous, chers auditeurs, chères auditrices. Et nous avons toujours Brian qui a eu cette patience. Il est en direct à Saint-Martin de Vignougoules, où il a pu évoquer son expérience de réalisation d'un documentaire qui nous présentera dès sa sortie. Et Brian, vous nous disiez que la radio vous manquait, visiblement.
Oui, oui, la radio vous manquait énormément. Et j'ai aussi repéré que j'ai développé des capacités grâce à la web radio que j'ai pu appliquer là, dans mon making-of.
Eh bien, ça nous fait grandement plaisir. Donc, on se rejoint très prochainement, hein, et vous transmettrez le bonjour à d'autres personnes qui aiment la radio. Et on a un peu de temps pour nous dire au revoir, puisque, chers auditeurs, on avait une rubrique sur le luxe, donc on va se payer le luxe, comme on disait, de la reporter à l'émission prochaine, parce qu'on a beaucoup de choses à dire et le temps nous manque. On s'en excuse. Mais ça a été un plaisir vraiment de pouvoir discuter avec vous, Brian, Laudine, Marouane et Maël qui est à la technique. Et bien sûr, on n'oublie pas les autres, hein, Fabrice, Ariane et aussi Florian et bien d'autres. On va se quitter. On se dit à très bientôt, Brian.
À bientôt, Brian. Merci.
C'était un régal de participer avec vous.
C'est pareil.
Eh bien, une bonne après-midi à vous, à tous, et au revoir.
Les haut-parleurs, l'émission qui parle fort.
La ligne ouverte, c'est fini.
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 Mais ne soyez pas tristes.
On se retrouve bientôt sur
Radio Moulin.
Les haut-parleurs toujours à la hauteur.